Le romancier ou la romancière ont le droit de remplir les blancs laissés par l'histoire.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Micheline Lachance, auteure des succès Le roman de Julie Papineau, Lady Cartier, Les filles tombées et du tout dernier Rue des remparts. Je suis Martine Podesto, directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Notre invitée aujourd'hui est Micheline Lachance, une femme aux multiples talents.
Je suis tantôt journaliste, tantôt écrivaine, mais de plus en plus romancière.
Est-ce que c'est ton métier, dirais-tu que c'est ton métier de journaliste ou encore ta formation d'historienne qui t'a tranquillement mené à l'écriture du roman ou au contraire c'est quelque chose qui t'habitait, que tu avais envie de faire depuis longtemps?
J'ai toujours su que je finirais par écrire des romans aussi loin que je me souvienne, toute petite. Le premier cadeau que mes parents m'ont fait à 9 ou 10 ans, c'était un petit dactylo. Parce que ne rêvais que d'écrire.
Ah,
maintenant,
oui.
Je suis devenue journaliste d'abord un peu aussi parce qu'il faut bien gagner sa vie et le journalisme m'a menée tranquillement au roman. Autrement dit, j'ai toujours porté deux chapeaux. J'étais journaliste, souvent journaliste à la pige et puis on a des moments creux. Hein. Alors, tranquillement, pas vite, je suis venue au roman. Mais j'étais rédactrice en chef de Châtelaine et j'aimais beaucoup mon travail. C'était impressionnant parce que on influençait la vie des femmes. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Et j'ai commencé à lire sur la biographie de Louis-Joseph Papineau dans mes temps libres. Mm-hmm. Et je suis tombée sur Julie dans cette lecture-là. Puis, franchement, il la faisait passer pour l'auteur, là, le biographe, il la faisait passer pour un peu insignifiante, déprimée, déprimante, maladive.
Okay.
Puis, elle m'intriguait parce que les extraits de ses lettres qui étaient publiés, c'était fascinant, était très politisé. J'ai décidé d'aller lire ses lettres aux archives et j'étais tellement habitée par ce sujet-là que j'ai quitté mon poste à Châtelaine pour me consacrer à ça.
Okay.
Et ça a commencé comme ça.
Mais à ce moment-là, tu avais quand même déjà fait des études en histoire. Tu t'intéressais déjà à l'histoire,
oui.
Au-delà de...
Ben, j'avais commencé des études en
histoire. OK, commencé.
Mais je les avais abandonnées au moment où je me suis mariée, puis tout ça. Et j'ai repris mes études. Je suis devenue, en fait, historienne à l'âge où on devient grand-mère. J'ai fini il y a peut-être une dizaine d'années, ma maîtrise. J'avais déjà fait le roman de Julie Papineau, j'avais fait Les Descartiers aussi.
Okay.
Et j'ai...
Pourquoi avoir senti justement le besoin, le désir de poursuivre tes études en histoire alors que tu faisais déjà énormément de documentation historique, que tu t'intéressais déjà beaucoup?
Je me demandais justement si j'utilisais bien mes sources.
Ah, oui,
est-ce que je trahissais l'histoire? C'était comme un besoin de me rassurer sur ma démarche, parce que je fais une grande recherche, mais là, est-ce que j'utilise bien? Est-ce que je nuance assez? Alors, j'ai fait mes études pour m'apercevoir après coup que... au fond, ça me fait presque rire, mais les études m'ont paralysé un petit bout de temps.
Ah oui, pourquoi?
Oui, parce que
pourquoi?
Là, je me disais, est-ce que j'ai le droit de dire ça comme ceci?
Ah oui, OK.
Et il a fallu, j'étais en train de faire les filles tombées. Les filles tombées, en fait, c'est le sujet de mon mémoire de maîtrise.
Ah, oui.
Je voulais en tirer un roman et j'ai été obligée de fermer mes livres d'histoire de l'écrire avec mon cœur, si je peux dire, parce que sans ça, j'étais toujours freinée dans mes lancers.
Dans ton élan, oui.
Depuis ce temps-là, je commence par mettre mon chapeau d'historienne quand je commence un travail.
Ah oui, c'est la première chose que tu fais, bien sûr, parce qu'il faut que tu aies tout un travail
la
de documentation. Par exemple, pour Rue des remparts, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, je pense que tu as lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur la Nouvelle-France.
C'est ça. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment la Nouvelle-France est tombée.
Ouais.
J'ai lu tous les livres qui se sont écrits sur la conquête, ceux du 19e siècle, ceux du 20e siècle, tout. Et après, et c'est probablement ce qui a été le plus précieux, j'ai lu la correspondance laissée par les personnages ayant réellement existé.
Ouais.
Ce sont tous des personnages qui ont vécu. Ouais. Par exemple, la correspondance du général Montcalm.
Ouais.
C'est absolument fascinant.
Incroyable.
Montcalm était une meumère.
Ce que les lecteurs et lectrices admirent chez Micheline, notamment, c'est cette habileté qu'elle a de nous faire voyager dans le temps, de donner vie à ses personnages toujours plus grands que nature.
par exemple, Montcalm et Vaudreuil se détestaient. Ouais. Hein? Or, tout ce que je leur fais dire, les querelles qu'ils ont, j'ai tirer ça de leur correspondance personnelle. Incroyable. Chacun. Ouais. Donc, je triche pas avec l'histoire de cette de cette façon-là. C'est parce que c'est intéressant. Les lecteurs, quand ils viennent me voir, par exemple, dans les salons du livre, et la première question qu'ils me posent, c'est est-ce que c'est vrai ça? Okay. Tout le monde a envie de lire des choses qui se sont passées réellement. Mm. Et comme je fais un effort de vérité historique, ben ça me convient finalement.
Oui, mais en même temps, tu es romancière, donc il y a une partie de création. Qu'est-ce que tu t'autorises justement? Quelles sont les limites que tu te donnes? Tu dis, bon, j'ai un souci de rigueur, de véracité des faits, mais où elle est la part de l'imaginaire dans tes romans?
Le romancier ou la romancière ont le droit de remplir les blancs laissés par l'histoire. Ah. Même en histoire, on veut avoir tout vrai. Hein? Ouais. On fouille, on cherche jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Souvent, les gens me demandent pourquoi tu fais ta recherche toi-même, pourquoi tu fais pas, t'engages pas un recherchiste, t'écrirais bien plus de livres.
Ah, mais j'imagine que.
Ben oui, mais c'est parce que je trouve des choses que je ne cherchais pas. Ouais.
Revenons aux femmes. En fait, c'est intéressant ce que tu racontes, concernant l'amitié entre les femmes, mais aussi au-delà de ça, les femmes ont été à l'avant-scène de tous tes. De tous tes romans, en fait, de la plupart de tes écrits. Julie Papineau, qui était la femme, l'épouse du chef des Patriotes dans le roman de Julie Papineau, qui nous raconte à travers ses yeux là, les années entourant la rébellion. Ensuite, il y a eu Hortense, l'épouse de Georges-Étienne Cartier, qui nous raconte aussi les années politiques fébriles là, qui ont entouré la Confédération. Et là, dans Rue des Remparts, c'est Geneviève. Donc, les femmes ont occupé toujours l'avant-scène dans tes récits, dans tes histoires. Pourquoi? Est-ce que c'est une manière de leur redonner un peu la part qu'elles méritent dans notre histoire? Ben, pourquoi?
À mon point de vue, le rôle joué par nos aïeules, c'est le secret le mieux gardé notre histoire. Ouais. Je ne le fais pas pour les réhabiliter, mais tant mieux si je leur donne une place qu'elles auraient dû occuper puis qu'elles n'ont jamais eue. Mm. Bon, ça, c'est un fait. Cette fois-ci, c'est la chute de la Nouvelle-France qui m'a d'abord interpellée et j'ai cherché à travers qui la raconter.
La raconter,
parce que pour moi, c'est important de raconter à travers les yeux d'une femme parce que je me transpose, hein, je deviens cette femme qui vit les événements. Ah, ouais.
Rue des Remparts, c'est bien sûr un grand rendez-vous avec notre histoire. Mais c'est aussi une guirlande de petites histoires méconnues, celles qui se sont jouées dans les coulisses des années entourant la conquête britannique. Des histoires d'amour, d'amitié, de trahison, de rivalité, sans compter une multitude d'intrigues amoureuses qui ont eu lieu au moment où se jouaient les dernières heures de la Nouvelle-France.
On est au milieu du 18e siècle. Moi, j'appelle cette période-là les années folles du 18e siècle. C'est-à-dire que c'est une époque d'aventures galantes, de liaisons adultères. Et la petite noblesse, parce que mon histoire se situe chez les gens de la petite noblesse de Québec, on les appelait le petit Versailles. Les mœurs étaient assez dépravées. Tous les militaires français avaient leur maîtresse ici, que ce soit le chevalier de Lévis, Bigot, qui lui était avec la Pompadour du Canada.
Les femmes aussi, je pense, avaient leurs amants.
C'est
ça. C'était hommes et femmes.
C'était des dames de la petite noblesse, des femmes mariées pour la plupart, qui prenaient des amants. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, j'étais une habituée du 19e siècle et au 19e siècle, les femmes sont prudes, elles sont obéissantes, elles sont accrochées à leur curé. Et alors qu'au 18e siècle, c'est vraiment des soirées arrosées, ils jouent à la roulette, des banquets fastueux. Mm. Et ça se passe, c'est assez tragique, ça se passe au moment où la population crève de faim. Ouais. Alors, ils sont un peu inconscients et légers, comme pas mal.
Un peu beaucoup, oui. Ouais.
Et donc, je trouvais que Catherine de Beaubassin incarnait ce monde-là. Mm-hmm. Et comme elle était l'amie de Geneviève, et ça, encore une fois, ce n'est pas inventé, leur amitié a duré jusqu'à la mort de Geneviève. C'est une véritable amitié entre les deux. Et de la faire parler, ça me permettait de m'ouvrir, hein, de bien peindre le milieu, comment ça se passait. Mm. Et aussi, les sentiments et les émotions féminins. Mm-hmm. Les deux femmes avaient l'œil sur le même homme, ouais, qui était, comme par hasard, l'homme le plus, le héros, l'homme le plus populaire de son temps, mm-hmm. le général Montcalm. Alors, cette espèce de rivalité entre les deux femmes, j'ai voulu l'exploiter pas mal, parce que je trouvais que c'était intéressant. Ça me frappe toujours que les gens vivent les sentiments de la même façon d'un siècle à l'autre.
Ouais, c'est vrai.
L'amour, la haine, l'humain, la colère, la vengeance. Tout, ça se vit exactement comme on le vit aujourd'hui. Et en ce sens-là, je pense que les femmes d'aujourd'hui peuvent se reconnaître dans ces femmes-là en ce qui concerne les sentiments du monde. Ouais.
La recherche documentaire nécessaire à l'écriture d'un roman historique est un véritable travail d'enquête qui met au jour son lot d'anecdotes savoureuses. Micheline nous offre quelques bijoux du genre pour notre plus grand plaisir.
Moi, il y a une chose qui m'a vraiment stupéfiée, c'est le rôle joué par George Washington dans mon histoire. George Washington, c'est le futur premier président des États-Unis d'Amérique, et il servait comme officier en Pennsylvanie pour l'armée britannique. Et bon, au milieu il y avait eu des combats autour, et il y a un émissaire canadien, Joseph Coulon de Villiers de Jumonville, qui s'avance vers lui avec un mouchoir au-dessus de la tête. Ça, c'est le signe qu'il vient avec un message, c'est un émissaire, c'est ça, qui vient porter un message de la part du général français. Et il s'est avancé et George Washington l'a tiré à bout portant. C'est un meurtre, ce meurtre-là, ce qui a déclenché apparemment la guerre. C'était le point de départ de la guerre en Nouvelle-France. Cette page d'histoire, il y en est question dans les ouvrages, mais on dit toujours ça n'a pas été prouvé ou que...
On n'insiste pas, en fait, c'est un fait assez peu reluisant.
Dans sa biographie, on n'insiste pas du tout. Et pourtant,
ça a été lourd de conséquences, parce que c'est l'élément déclencheur la guerre de 7 ans.
Et d'ailleurs, Washington a signé des aveux complets, disant que oui, il avait assassiné l'officier qui s'était présenté devant lui. Plus tard, il a nié. Il a expliqué qu'il n'avait pas compris la question. Il n'avait pas compris ce qu'il signait. Il pensait que meurtre et puis mort, ça voulait dire la même chose. Il s'est embourbé dans des explications qui n'étaient pas crédibles. Okay. Alors moi, j'ai retenu la thèse de l'assassinat.
Niveau anecdote aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais te laisser le raconter. Entourant la fameuse bataille des plaines et le rôle des personnes qui devaient théoriquement être disponible pour prendre part à la bataille. Veux-tu nous raconter un petit peu? Il y a quelque chose de
C'est le rôle...
Comment on le voit.
Cette fois, c'est le rôle de Bougainville. Bougainville, c'est un grand aventurier. C'est lui qui a laissé son nom, d'ailleurs, plus tard, là, au Bougainvillier, les arbustes. Cet homme-là était l'adjoint, si on peut dire aujourd'hui, en employant des termes d'aujourd'hui, l'adjoint de Montcalm. Et Montcalm l'attendait... au matin sur les plaines d'Abraham, le 13 septembre au matin, et Bougainville était à la tête du corps d'élite. Donc, il aurait dû venir sur les plaines d'Abraham. À l'heure fatidique, il brillait par son absence. Alors, où était-il? C'est ce qui m'a intrigué. Comment ça se fait? Tout le monde l'attendait. Il devait arriver. Il n'est pas arrivé. Il y a deux thèses. Il y a une seule thèse, il y a deux possibilités. Ça, c'est intéressant aussi pour le chercheur. Qu'est-ce que je fais avec deux options? Alors, d'abord, tout le monde dit qu'il était tout simplement au lit, dans les bras de sa maîtresse. Mais toute la question, c'est de savoir quelle maîtresse. Un juge du 19e siècle qui a connu la famille La Pérade, donc la famille de Geneviève, il aurait été avec Marianne de La Pérade, qui était la belle-sœur de Geneviève et qui est un personnage, j'en avais fait un personnage dans mon roman, donc c'était très plausible qu'il soit avec elle. Ça, c'est une descendante de la famille qui l'a assuré. La famille a même dit que Bougainville devait épouser Marianne. L'autre, c'est un historien du 20e siècle, Charles Perry Stacy. Lui, il dit que Bougainville était dans le lit de l'épouse de son cousin, François-Joseph de Vienne, la belle Antoinette. Mm-hmm. Moi, évidemment, dans l'impossibilité de trancher, parce que je peux pas être sûre, j'ai fait valoir les deux thèses. Alors, on se demande dans le roman avec laquelle des deux il était, mais de toute évidence, il était avec une des deux.
Ben décidément, ce seront les mœurs dissolues de nos amis du 18e siècle qui auront contribué de toutes les façons
à la chute de la Nouvelle-France.
Hein, quelque part, on peut le penser.
Évidemment, on peut faire l'autopsie de toutes les guerres et il y a toujours des événements comme ça qui ont fait dérailler la machine à un moment donné. Ouais. Mais,
et si Bougainville avait été présent, est-ce que ça aurait changé le cours des choses?
Probablement, parce que d'abord, il arrivait avec de puissants effectifs et ils auraient pu... mais est-ce qu'on sait?
Est-ce qu'on sait? À chaque épisode de Chez l'éditeur, je demande à mon invité de nous parler d'un livre coup de cœur ou d'un auteur qui l'inspire particulièrement.
Mon choix s'est arrêté sur Lise Payette. J'ai une profonde admiration pour Lise Payette. Mes plus lointains souvenirs remontent aux années 70 alors qu'elle animait un talk show Appelez-moi Lise. Alors, j'ai choisi de parler de son autobiographie Des femmes d'honneur. Si j'ai choisi ce récit de vie-là, qui est écrit à la première personne, c'est parce que je trouve que c'est un parcours que les jeunes femmes d'aujourd'hui devraient absolument lire.
Oui, c'est vrai.
Je ne veux pas faire la morale à personne, mais il me semble que trop souvent, les jeunes générations ignorent le travail acharné de leurs aînés pour conquérir des droits qui aujourd'hui
sont des droits qui vont de soi.
Je pense, par exemple, les garderies pour tous, l'équité salariale, le droit de choisir librement d'avorter, si on veut. Au moment où Lise Payette a milité, a été active, bon, le féminisme prenait son envol et elle a vraiment été de tous les combats. C'est intéressant de le rappeler.
Alors, Micheline, je pense que tu as un extrait à nous lire, tiré des femmes d'honneur de Lise Payette. Alors, on t'écoute.
Oui, j'ai choisi un extrait, finalement, qui a des allures de testament. Lise Payette s'adresse à sa petite-fille Flavie, puis elle lui confie, finalement, sa tristesse et ses blessures d'âme.
Très touchant.
Alors, je commence. Elle écrit « Je suis toujours là. Parfois, je l'admets, j'en suis surprise. J'ai même réussi à passer le cap des 80 ans sans trop de difficultés. Dans quelque temps, j'en aurai 83. Il aura fallu un accident bête et stupide qu'on appelle une fracture de la cheville pour que je me retrouve couchée pendant des mois, puis en physiothérapie, puis en chaise roulante pendant un temps, avant de retrouver mes bonnes vieilles jambes qui rêvent encore parfois d'aller danser et surtout de terminer la visite de cette planète si petite et si vaste qu'on appelle toujours la Terre. Je sais bien que la fin de la récréation va bientôt sonner. La perspective de mourir ne me fait pas peur, mais le fait de devoir quitter ceux et celles que j'ai tant aimés me brise le cœur de plus en plus. J'aurais souhaité pouvoir leur dire que ma génération leur a laissé un monde meilleur. Ce n'est pas le cas. J'aurais fait de mon mieux pour que la vie des femmes soit vraiment améliorée et qu'elles occupent enfin la place qui leur revient de droit. Que l'autre moitié du genre humain cesse de les mépriser, de les dominer et de les violenter. Je souhaite aussi qu'on donne la parole aux femmes. Il est plus que temps, car elles sont porteuses de mots de paix et de tolérance qui peuvent changer le monde. J'aurais souhaité pouvoir mourir dans mon propre pays. Mourir au Canada ne me dit rien de bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis si curieuse de ce qui va arriver, de ce que mon pays va devenir, du rôle que mon peuple choisira de jouer au cœur des nations, que je serai prête à aller en prolongation pour rester dans la parade plus longtemps. Et puis, il faut bien le dire, finalement, je ne suis pas si pressée de fermer les yeux malgré tout. J'ai eu un plaisir fou à être ta grand-mère, Flavie. Je te remercie de m'avoir tenu la main chaque fois que j'en ai eu besoin.
C'est beau, c'est touchant, quel beau texte. Quand on sait à quel point Lise Payette, d'ailleurs, est proche de sa petite fille,
Flavie,
c'est d'autant plus touchant. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Micheline, pour cette lecture d'extrait. Merci aussi d'avoir été avec moi pour me parler de ton parcours, de ton magnifique Rue des Remparts. J'invite les lecteurs à se le procurer, à le lire. C'est un bijou historique magnifique. Donc, je te remercie beaucoup.
Alors, on se dit à la prochaine.
On se dit à la prochaine, oui, j'espère. C'est ainsi que notre épisode de Chez l'éditeur se termine. Je recevais aujourd'hui la romancière Micheline Lachance, qui est venue nous présenter son dernier roman, Rue des Remparts. Micheline nous a également parlé de l'œuvre de Mme Lise Payette et de sa biographie des femmes d'honneur, dont elle nous a lu un extrait. Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique. Nous remercions Monopole pour la musique et Philippe Collard à la technique. Avant de vous quitter, je vous rappelle que notre café chez l'éditeur est maintenant ouvert. Venez nous visiter au 7240 rue Saint-Hubert à Montréal. Je m'appelle Martine Podesto, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Chez l'éditeur.